Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Paul Saint-Pierre Plamondon nous explique pourquoi son parti, le Parti québécois, lance ces jours-ci une pétition pour réclamer une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Même s'il y a déjà plusieurs enquêtes en cours, et après tout, le protecteur du citoyen, la vérificatrice générale, la commissaire à la santé et au bien-être, il y a des coronaires aussi qui se penchent là-dessus. Alors, il nous explique que c'est nécessaire malgré tout. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnel.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, un jugement important de la Cour d'appel est tombé vendredi qui a confirmé la constitutionnalité de la loi du 50 % plus 1. Je l'appelle comme ça, mais c'est la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. Rappelle-nous un peu, Patrick, les raisons de l'existence de cette loi-là et par qui puis pourquoi elle était contestée.
Ben, c'est une loi importante. Elle pose une question qui peut nous sembler un peu déconnectée de l'actualité immédiate, c'est-à-dire la question de l'autodétermination externe du Québec à la suite du référendum de 1995. Mais en même temps, on va le voir, dans cette décision-là, il est aussi question de ce que le Québec a le droit de faire à l'intérieur du Canada. Donc, c'est les deux versants qui font partie du débat. Donc, grosso modo, on a en 1995 un gouvernement du Québec qui organise un référendum sur l'indépendance, sur l'accession à une souveraineté partenariat. Et avant, peu avant le scrutin, pendant et surtout après, il y a des voix qui vont s'élever et contester juridiquement ce processus d'accession à l'indépendance. Ça va donner en 1998 probablement la décision la plus célèbre de la Cour suprême du Canada, ici et ailleurs, le renvoi sur la sécession du Québec, mais aussi ensuite une réponse politique et législative par Ottawa. On l'appelle la loi sur la clarté ou C20, pour reprendre sa numérologie, et la loi 99, qui est un embryon de constitution interne pour le Québec et qui a un titre très, très long, que le juge résume dans sa décision de vendredi comme étant la loi sur les prérogatives du Québec. Et donc, Keith Anderson, lié au Parti Égalité, puis ensuite à titre de citoyen individuel, va s'impliquer dans le renvoi sur la sécession comme intervenant, mais après va contester la loi 99 et ça va durer plus de 20 ans, cette saga-là.
Il essaie de dire, au fond, que cette loi-là, la loi 99, essaie de préparer une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec, c'est ça?
Oui, il essaie de dire
ça,
que...
C'est de ça qu'il a peur, là. En anglais, on dit UDI.
Il essaie de dire que cette loi contredit les exigences de la Constitution canadienne telles que résumées dans l'avis de la Cour suprême. Et donc, on a eu une décision de première instance en 1998...
Okay.
Par la Cour supérieure du Québec qui a confirmé, qui a rejeté la requête de M. Anderson, puis en plus, qui a pris le temps d'affirmer « cette loi est valide ». Et là, le vendredi dernier, c'était la Cour d'appel du Québec, à l'unanimité, avec des motifs du juge Mainville, qui rejette la requête, mais soustrait ce petit paragraphe de la décision précédente qui disait « inquiétez-vous pas, en toutes circonstances, cette loi est valide. » Donc, on est un peu plus prudent du côté de la Cour d'appel. On dit, la requête de M. Anderson, c'est non. La demande du fédéral de déclarer la bonne manière d'interpréter la loi, c'est non.
Ah.
Et donc, a priori, ça semble être une...
Parce que le fédéral participait à ça, était opposé à la loi 99 qui avait été adoptée, il faut le rappeler, sous Lucien Bouchard. C'était un geste de Lucien Bouchard contre Jean Chrétien, qui lui avait fait adopter à Ottawa sa loi sur la clarté, hein, c'est
oui.
ça?
Et le fédéral est intervenu en cours de route. Donc, a priori, c'est une défaite pour M. Anderson, c'est une défaite pour Ottawa et une victoire pour Québec. Et il y avait aussi un autre intervenant avec une position semblable à Québec, mais peut-être un peu plus forte et plus explicite, la société Saint-Jean-Baptiste et son président de l'époque qui agit comme avocat pour la société ensuite, Maxime Laporte. Et donc, c'est intéressant de voir les choix que le juge a fait pour gérer cette patate chaude.
Ben oui.
Et comprendre qui a marqué des points. Parce que, bon, en apparence, c'est défaite de l'un, victoire de l'autre.
Mais là, tout le monde crie victoire, Patrick. Oui. Monsieur Anderson crie victoire. Et Québec crie victoire aussi. Est-ce qu'on peut déterminer un gagnant, selon toi, ou tout le monde comme un petit bout?
Il faut y aller morceau par morceau, je pense. Mais le juge Mainville, il y a une posture un peu fascinante. C'est un juge qui est plutôt partisan de la retenue judiciaire. Et dans cette décision-là, c'est lui aussi qui avait donné la réplique à la juge Duval-Esler dans l'affaire Hack là, sur la loi 21, l'affaire provisoire. Il y avait le même procédé dans ses motifs. Il ouvre un argument, là, c'est presque une boîte de Pandore. Il en ouvre un autre, puis il finit par dire « Ah, mais ça, j'ai pas besoin de trancher.
Okay. »
Donc, il y a beaucoup de petits passages où on peut se demander où est-ce qu'il s'en va avec ça. Puis finalement, il ouvre une porte, mais il referme ensuite. Et ça fait de la décision, une décision quand même assez fascinante. Donc d'abord, un rejet de la demande de M. Anderson, une défaite assez claire, mais ça tourne toujours autour de l'argument suivant. C'est que votre demande est hypothétique. C'est théorique, j'ai pas de contexte. Vous postulez que le Québec va faire un usage de la loi, mais c'est comme si vous postulez une attitude qui est pas au rendez-vous. Et donc, je rejette votre demande. Mais il va un peu plus loin. Et ça, je pense, c'est une victoire pour Québec. Il dit, je remarque que vos arguments, vous les avez déjà soumis en Cour suprême. La Cour suprême a soit ignoré...
Il dit ça à Anderson.
Oui. Soit elle a ignoré vos arguments, elle a jugé que c'était pas nécessaire d'y répondre. Soit elle a dit que c'est des questions trop politiques et que c'est pas de nos affaires. Ou soit elle les a rejetées parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous.
Mm.
Et donc, comptez pas sur moi pour refaire le match. Et donc, ça vient consolider la défaite d'Anderson.
Mm-hmm.
De rappeler que ça, là, ça a été plaidé, ignoré ou rejeté, ça suffit.
Mm-hmm.
Deuxième aspect, on refuse l'interprétation qui est souhaitée par Ottawa. Mais là, ici, la défaite est un peu moins grande que pour M. Anderson.
OK.
Parce que ce qu'on dit,
c'est... Ottawa, il aurait voulu que ça soit déclaré anticonstitutionnel, plusieurs articles, un peu comme Anderson.
Non, ils avaient une position très subtile. Ils voulaient que la loi soit valide, parce qu'il ne faut pas oublier là, que si la loi 99 est inconstitutionnelle, il y a encore plus de chances que la loi sur la clarté le soit aussi. Ces lois-là, elles sont des réponses au renvoi sur la sécession. Et donc, Ottawa veut aussi sauver sa loi. Donc, ce qu'Ottawa, lui, voulait, c'est que la loi 99 reste en vigueur, reste valide, mais que les tribunaux viennent décréter la bonne manière de l'interpréter.
Ah.
Faire de l'interprétation atténuée, du reading in, du reading out. Donc, décréter une réécriture jurisprudentielle de la loi. Et ça, le juge le refuse. Donc, défaite pour Ottawa, mais en même temps, demi-défaite, parce que le juge dit, je le ferai pas parce que ce serait inutile de le faire.
Mm-hmm.
Comme si, au fond, l'interprétation qu'Ottawa souhaiterait de cette loi... C'est probablement déjà aux yeux de la Cour une interprétation qui semble logique. Donc, la défaite est vert à moitié vide ou vert à moitié plein. Ça dépend comment l'on voit ça. On donne raison à Québec, évidemment, mais avec un peu moins d'enthousiasme que la juge de première instance. On donne raison parce qu'on dit, d'une certaine manière, dans cette loi-là, il n'y a rien qui contredit l'avis de la Cour suprême. On peut même se demander s'il y a
de
des choses là-dedans qui changent l'état du droit. On déclare des droits que le Québec a d'une certaine manière toujours possédés.
Mm-hmm.
Surtout si on en fait une interprétation qui, selon le juge, serait l'interprétation correcte, qui des fois peut être un peu atténuée par rapport à ce que d'autres pourraient vouloir proposer. N'empêche que pour Ottawa, il y a une petite victoire parce que ça sacralise encore un peu plus la vie de 98. Ça rappelle que il n'y a pas de droit à la sécession unilatérale sans négociation. Mais en même temps, sans négociation, ça veut dire que si les négociations ne marchent pas, on n'en sait toujours pas plus. Hein.
C'est ça.
Et par contre, là où Ottawa...
C'est un peu le plan de Parizeau. C'est-à-dire que après un oui, on négocie un an. Puis sinon, on déclare unilatéralement l'indépendance.
Oui, et Ottawa, il gagne un peu parce que le juge est toujours en train de rappeler que si, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'usage qu'on ferait de cette loi la rendrait un peu en contradiction avec le reste du droit canadien, ça peut être une loi fédérale, ça peut être la Constitution elle-même, il rappelle peut-être qu'à ce moment-là, il faudra déclarer des dispositions inopérantes. Mais il dit « je suis pas rendu là ».
Ah.
La victoire, la défaite, les lignes sont très, très...
Comme provisoire, très... c'est...
Oui. Ouais. Et à juste titre, pour les souverainistes, un des plus gros aspects de la victoire pour les indépendantistes au Québec, c'est la manière, le sort réservé à la question du 50 % plus 1
oui.
dans ce jugement.
Parce que c'est au cœur, il faut le rappeler aux gens, là, Québec voulait que ce soit 50 % plus 1, alors qu'Ottawa essayait de dire non, ça prend une majorité qualifiée.
En fait, Ottawa...
Ça, on est au cœur de ton expertise, Patrick, tu as oui. fait ton doctorat là-dessus, non?
Oui, en partie, ouais. oui, en effet. Ottawa propose une loi un peu arbitraire où il dit, moi je vais me prononcer sur c'est quoi une majorité suffisante après le match, après le scrutin.
C'est ça.
Et je dirais s'il fallait 1% de plus, 1% de moins. Donc ça, c'est l'approche d'Ottawa. L'approche de la Cour suprême, c'est de dire une majorité claire, c'est pas un chiffre. C'est un ensemble, c'est un regard qu'on pose sur l'ensemble du scrutin. Est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'il y a eu un scrutin qui avait de l'allure? Okay? Et Québec, lui, dans sa loi, inscrit 50 % plus 1 comme une règle. Quand le juge Mainville parle de ça, il élargit un peu le focus. Okay. Il veut pas. Il utilise très rarement, d'ailleurs, le mot majorité. Il parle de l'article numéro machin.
Okay.
Il veut pas écrire la phrase qui dit au Canada, c'est 50 % plus 1. Mais il dit que l'article est valide. Pourquoi il est valide? Ben parce que ça contredit en rien la vie, parce que ça correspond aux usages existants au Québec et ailleurs. C'est déjà dans nos lois. Il y a des exceptions à ça ailleurs, mais
ils
sont prévus dans la loi, il faut le dire. Donc,
Par exemple, les référendums sur les diffusions au Québec.
Exactement,
c'est
une exception.
C'était une majorité qualifiée et surqualifiée. Par ailleurs, tu as vu beaucoup d'autres choses intéressantes dans ce jugement.
Après, il y a toutes sortes de petites citations intéressantes.
Oui.
D'abord, sur la question existentielle. Le démos, hein, c'est qui ça, le Québec? Y a-t-il un peuple au Québec?
Oui, ça faisait partie des préoccupations de M. Anderson.
Ben oui, parce que M. Anderson, lui, il a peur que si on reconnaît qu'il existe un peuple du Québec, alors il serait titulaire d'un droit à l'autodétermination externe. Et
même sur la composition du peuple, si
oui,
je comprends bien.
Oui, tout à fait, il a peur, il veut jouer avec le sens du peuple au sens... ethnico-culturel versus son sens civique. Il avait peur que la loi mise sur les deux sens. Dans le renvoi sur la sécession, la Cour suprême, avec retenu ou lâcheté, peu importe, elle dit « J'ai pas besoin de me prononcer sur la question de savoir s'il existe un peuple au Québec pour trancher le litige, donc je garde le silence.
Mm-hmm. »
Cette fois-ci, qu'est-ce que le juge Mainville nous dit? Il dit « C'est un faux débat. » Et comme la Cour suprême, j'ai pas besoin de me prononcer. Bon. Mais c'est plus fort que lui.
Ah.
Il ouvre des portes. Il ouvre des portes.
C'est la technique Mainville.
Il y a un petit passage que peut-être tu pourrais nous lire qui illustre assez bien son ambiguïté sur la question.
Que le Québec soit une province canadienne est un fait juridique incontestable et une déclaration judiciaire à cet effet ne servirait aucune fin juridique précise.
Petite pause, hein? Ça, c'est ce qu'Ottawa aurait voulu. Il dit tellement évident, on ne va pas commencer à dire ça.
Vu son inutilité juridique, elle pourrait plutôt mener à des incertitudes quant à sa raison d'être et quant à sa portée juridique.
Et là, voyez, dans la prochaine phrase,
ouais.
le juge a l'air conscient que quand il parle, ça a des conséquences politiques.
Elle aurait...
préoccupe des tensions là, à Québec-Canada. Allons-y.
Elle aurait aussi... presque certainement pour effet d'exacerber les lourdes tensions portant sur le statut du Québec au sein de la Confédération canadienne, y compris le statut de société distincte ou de nation distincte.
Et là, on saute un peu. C'est la grande phrase qui va rester, selon moi, de ce jugement. Elle va en surprendre plusieurs, mais regardez comment il ménage la sèvre et le chou. Allons-y.
Avec égard pour l'opinion contraire, le Québec n'est pas une province comme les autres. Il dit ça, le juge. Il
l'écrit. Pas une province comme les autres, c'est pas rien.
Il s'agit là d'un fait sociologique et politique incontestable.
Et là, j'arrête. Il dégonfle tout de suite. Le Québec n'est pas une province comme les autres, mais ça serait politique et sociologique.
Oui, c'est ça.
Et on continue, là, on va voir que...
Entre autres, le Québec est le foyer de la langue et de la culture française en Amérique du Nord, et son régime juridique fondé sur le droit civil se distingue nettement de ceux de ses partenaires et voisins.
Et là, on voit...
Mais il fait Meech.
Oh, ben, oui,
c'est la société distincte de Meech.
Tout à fait, mais...
On peut-tu faire ça en jurisprudence, Meech?
Ben, on l'a fait un peu, ben, pas tout Meech, mais cet aspect-là de Meech, on l'a déjà retrouvé dans le renvoi qui portait sur la nomination du juge Marc Nadon.
Oui.
La Cour suprême avait parlé des valeurs sociales distinctes du Québec. Là,
j'avais
fait
un éditorial au Devoir qui s'intitulait « Mini-Meech ».
Oui. oui. Et là, on voit que le juge Mainville, ben, il se sent autorisé à peser sur le même clou, mais il le fait en disant « il y a une réalité sociopolitique incontestable », puis après ça, il dit bien, ça a des échos en droit, mais il ne le dit pas assez explicitement, parce qu'on le sait, là, cette particularité linguistique, elle est dans la Constitution, cette particularité civiliste, elle l'est aussi. Donc, on le voit, là, il avance prudemment, et il fait un peu le même procédé, le temps file, mais avec plusieurs autres expressions. Par exemple, l'exemple qui te plaît le plus, celui du parc national.
Ah, c'est terrible, ça, parce qu'il s'arrête à l'appellation « État du Québec » dans la loi 99, hein, au lieu de « province ». Et là, lui, il s'inscrit en faux contre l'État du Québec et il dit « C'est bien qu'on puisse désigner un parc provincial comme parc national, outre la confusion que cela peut engendrer au sein du public quant au gouvernement responsable de sa gestion. Cela n'entraîne aucune conséquence juridique véritable. » Moi, je trouve ça terrible parce qu'il prend l'exemple d'un parc, mais ici, là, on est à côté de l'Assemblée nationale. C'est les élus du peuple québécois qui ont décidé de nommer cet endroit comme ça, c'est pas rien. C'est une affirmation nationale. En plus, il utilise une expression « Confédération canadienne » qui non plus n'a pas d'existence juridique, ne se retrouve même pas dans la loi constitutionnelle de 1867.
À terme, là, la question, c'est est-ce que le Canada est une fédération mononationale ou plurinationale?
Ouais.
Ou post-nationale, selon certains.
Ah, ça, c'est Trudeau.
Et là, avec son exemple sur les parcs nationaux, ben, au fond, il fait juste créer de la confusion et je pense que c'est pas nécessairement ça qui va faire avancer la question de la définition de ce que nous sommes au Québec et au Canada. Il y a une phrase qui m'inquiète.
Oui.
On dit souvent, est-ce que le Québec... qu'est-ce que ça change que le Québec ait ou non ratifié la Constitution de 1982?
Politiquement,
oui. Ben, le juge semble dire que l'adoption de la loi 99, je cite, peut être perçue et interprétée comme affirmant l'adhésion. L'adhésion, j'insiste. L'adhésion à quoi?
Par l'Assemblée nationale aux principes qui ont marqué l'évolution des arrangements constitutionnels canadiens applicables.
Il nomme pas la loi constitutionnelle de 1982, mais il décrit quelque chose qui ressemble drôlement à la loi constitutionnelle de 1982. Donc, une tentative d'un peu réconcilier tout le monde par la force, en disant, ben votre loi est valide, puis elle n'a de sens que parce qu'elle est compatible à une constitution que vous avez jamais acceptée. Et donc, l'adoption de votre loi, c'est un peu l'acceptation du contexte que vous vous efforcez de rejeter. Je pense que là, il pousse un peu le bouchon.
Ouais.
Sinon, il y a quand même des passages aussi où il rejette clairement la position d'Henderson en lui disant, grosso modo, votre position, c'est de valoriser un droit de veto absolu et unilatéral pour le fédéral, pour les provinces. C'est pas ça que la Cour suprême a dit. Vous allez pas me le faire dire à nouveau.
Ah ouais.
Il y a donc énormément, beaucoup de choses à boire et à manger pour toutes les parties là-dedans.
Alors, on va dire que M. Mainville, c'est vraiment un juge funambule.
Oui, c'est une très belle formule. On peut quand même s'interroger, hein? 19 ans après la première décision dans le dossier Henderson, il y a 19 ans, il y avait une requête pour rejet préliminaire, donc dire ce débat-là, ça sert à rien, là, on va pas perdre notre temps. Le juge Michel Côté de la Cour supérieure avait énoncé un certain nombre de motifs pour dire non, la Cour suprême s'est déjà prononcée, il y a pas de raison d'en dire plus.
Ouais.
Finalement, 19 ans plus tard, c'est presque la même chose, c'est juste qu'on nous offre un beau 40 pages de lecture avec toutes sortes de choses sur le fait que le Québec n'est pas une province comme les autres, mais que ces parcs nationaux, ça veut pas dire grand-chose. On a de quoi s'amuser, mais c'est quand même étonnant de voir la longueur de cette saga quand tout était peut-être au fond dans la décision initiale,
ouais,
préliminaire, en rejet de Michel Côté. Notre système judiciaire essaie d'avancer avec retenue dans ce dossier-là, et le fil conducteur de sa décision, c'est essayer de ne pas en dire plus que ce qu'a déjà dit la Cour suprême.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel, plus que jamais aujourd'hui, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez
Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Le Parti québécois vient de lancer une pétition pour une enquête publique sur la pandémie. On en parle avec son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi une pétition exactement? Est-ce que c'est pour ramasser des noms, pour aller chercher des données là, de personnes qui peuvent vous appuyer?
Non. C'est un outil qui est normal pour un parti politique de mobiliser. On se souviendra d'ailleurs du rôle du Parti québécois dans le déclenchement de la commission Charbonneau il y a longtemps maintenant. Mais c'est normal que des partis politiques portent des initiatives. Et dans le cas là, de cette pétition-là, ça fait des mois que le Parti québécois dit que ça nous prend, comme en Ontario, comme en France, une véritable commission d'enquête qui soit objective, indépendante. Et là, on constate que le gouvernement va continuer à faire la sourde oreille. On a été aussi surpris de la sortie de la commissaire à la santé, qui, la semaine dernière, avant même d'avoir terminé d'entendre les témoignages là, qui sont un peu pris aléatoirement, avant même d'avoir entendu un certain nombre de personnes, concluait déjà, nous fournissait déjà des conclusions pour son enquête, à savoir qu'il fallait exonérer le gouvernement actuel, qu'il y avait la plus grosse partie du blâme revenait au gouvernement précédent. Bref, là, on est devant une situation où nous, on est convaincus que ça prend une vraie commission d'enquête, pas une commission spectacle, mais une commission qui soit objective et rigoureuse. Et là, bon, on veut en faire là, le cœur de notre action politique au cours des prochains mois.
Vous parlez de la pétition du Parti québécois à l'époque. Vous dites on a une tradition de ces pétitions-là, mais habituellement, c'est sur le site de l'Assemblée nationale qu'on fait ces pétitions-là. Pourquoi faire un site particulier?
Ben, c'est vrai que souvent on utilise le site de l'Assemblée nationale. Ce qu'on constate par contre au cours des derniers mois, c'est que lorsqu'on lance sur le site de l'Assemblée nationale une initiative non partisane, parce que l'Assemblée nationale n'est pas partisane, on voit d'autres partis politiques reprendre l'idée et partir une pétition en parallèle sur une base partisane. Donc cette fois-ci, on a décidé de s'assumer là, puis de dire explicitement que c'était une initiative portée entièrement par le Parti québécois. Donc, c'est une des options qu'on a, mais le message demeure le même, là, à savoir que le Parti québécois veut consacrer le cœur de ses énergies au cours des prochains mois à ce qu'aboutisse une vraie enquête, pas pour retrouver des coupables, mais bien parce que on a plus de 10 000 morts. Et que si on regarde pour la possibilité de d'autres vagues, la possibilité de d'autres crises sanitaires, mais il faut absolument s'améliorer. Puis pour ça, mais ça prend un vrai processus où est-ce qu'on est objectif, on va au fond des choses.
Donc, Joanne Castonguay, elle ne fera pas un vrai processus? Là, elle a commencé, il y a quand même 400 témoignages.
Clairement pas.
Non.
Pour participer au processus, il faut signer un document comme quoi sa participation dans le processus doit demeurer confidentielle. Ça ressemble drôlement à ce qu'on baptisait à l'époque la patente à gosse. C'est-à-dire, on dit aux gens participer, mais garder le silence. Et dès le départ, nous, on a refusé de participer pour cette raison-là, notamment, mais également parce que, comme le relèvent plusieurs analystes, là, Mme Castonguay n'a pas l'indépendance vis-à-vis le gouvernement pour faire un travail complet. Donc, nous, on dit, ça fait plusieurs mois là, qu'on dit, ça prendrait quelque chose qui est comparable à l'Ontario. Doug Ford a ces choses-là, ces décisions à justifier, mais il n'a pas eu peur de faire une véritable enquête, découvrir des conclusions. Là,
mais la protectrice du citoyen va enquêter aussi, la vérificatrice générale va enquêter aussi sur la gestion de la COVID. Vous n'êtes quand même pas en train de dire générale, que ces deux-là important. Sont pas indépendants du gouvernement. Ils sont nommés par l'Assemblée nationale.
Oui, mais la vérificatrice générale va effectuer un travail qui, je pense, va être utile, mais traditionnellement, la vérificatrice générale va faire un examen plus comptable, plus au niveau du respect des normes. L'important dans une commission d'enquête, c'est le pouvoir de contraindre des témoins. C'est que pour comprendre véritablement des choses comme comment se faisait le processus décisionnel entre la santé publique puis le politique, puis comment est-ce qu'on peut améliorer ce processus-là, par exemple, par rapport au santé publique régionale qui vraisemblablement là, se plaignent de ne pas être entendus. Si on veut se pencher sur les situations dans les CHSLD, il faut avoir le pouvoir de contraindre certaines personnes à venir expliquer ce qui s'est passé. Si on n'a pas le pouvoir d'avoir des témoins devant nous, ben là, c'est sûr que l'examen, il n'est pas de la même qualité, il n'est pas aussi complet. C'est pour ça qu'il y a une loi sur les commissions d'enquête. C'est pour ça que cet outil-là, il existe. c'est que ça permet mais vraiment un examen au
complet.
On sait
que la vérificatrice générale... Oui, mais la vérificatrice générale a les pouvoirs d'un commissaire enquêteur. La protectrice du citoyen aussi ont les mêmes pouvoirs.
Non, c'est pas des pouvoirs aussi complets. Quand on regarde la loi sur les commissions d'enquête, c'est des pouvoirs très, très larges. Et c'est pourquoi dans d'autres situations, prenons là, le viaduc de la Concorde, c'était 3 décès. Puis là, on est à 10 000 décès. Puis pourtant, on s'est doté de ce processus, de ce cadre juridique-là qui est la loi qui permet les commissions d'enquête. Moi, je pense que le bon véhicule là, pour avoir un processus complet, c'est ce...
J'avais interviewé...
La commission d'enquête.
J'avais interviewé Pierre-Marc Johnson dans le temps, vous parlez de la Concorde, là... Il m'avait dit, oui, c'est un bon outil, les commissions d'enquête, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est un outil comme celui qu'a utilisé, mettons, la SECO ou le juge Clich. C'est de la belle époque des commissions d'enquête où vraiment on avait un inquisiteur là, qui posait des questions, qui avait toute l'altitude. Depuis, ça s'est judiciarisé énormément. Il y a eu les jugements sur les commissions d'enquête là, sur le sang contaminé, la commission Gomery.
Oui.
Et tout ça a tellement alourdi l'outil qu'on se demande si c'est aussi utile qu'on l'imagine.
Moi, je trouve que c'est utile, puis je trouve qu'on dévalorise le processus de.
Ben oui, mais Charbonneau, il n'y a même pas eu un blâme, M. Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui, mais souvenons-nous que les contrats étaient gonflés par 35%, puis que dans les années qui ont suivi Charbonneau, le gonflement n'était plus là. Donc, combien de centaines de millions avons-nous économisé? Je comprends que ça coûte des sous, une commission d'enquête, mais il y a des effets sur notre société, ne serait-ce que mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a des effets aussi en termes de modification de nos lois par la suite. Donc, c'est faux de dire que c'est inutile comme processus. Là où je pense qu'on peut apprendre, parce que c'est vrai que ça a évolué à travers le temps, les commissions d'enquête, est-ce qu'on est obligé d'avoir des commissions spectacles? Ça, par contre, je suis pas sûr. Surtout pour ce qui touche la pandémie. Moi, j'aurais en tête une commission qui est plus sobre, où est-ce qu'on n'est pas en télévision, en direct, constamment, un peu comme ce qui sont les règles applicables à un procès, au processus judiciaire.
Mm-hmm.
Quelque chose de plus sobre, de plus efficace que les commissions Gomery et Charbonneau. En d'autres mots, la loi, elle est là. L'outil, il est très, très fort, très, très large. Mais on peut évoluer dans notre réflexion sur comment on le met en œuvre. Moi, je pense que pour la pandémie, moins de spectacle, plus efficace.
Est-ce que c'est le spectacle ou le bal des avocats qui pose problème? Parce que c'est ça qui est arrivé à Charbonneau. Là. C'était les avocats, les contre-interrogatoires. Et à l'époque de Clich, il n'y avait même pas de contre-interrogatoire.
Mais moi, je pense qu'il faut donner à ce processus-là là, les garanties juridiques pour que personne ne se plaigne de la manière dont ils sont traités.
Mm.
Mais il faut le rendre moins politique spectacle parce que le but, au fond, d'une commission, c'est pas de faire du spectacle ou de trouver des coupables. Le but, c'est de s'améliorer. Puis, okay. En général, ça a permis d'améliorer des choses, chacune de ces commissions-là. Mais moi, je remets en question, là, surtout pour le sujet qui nous occupe. C'est-à-dire, on veut savoir que dans une prochaine pandémie, une prochaine crise sanitaire, il y a des erreurs qu'on ne refera pas, il y a des processus qui seront meilleurs. Moi, je veux quelque chose de complet, mais je veux pas pour autant en faire un spectacle. Et moi, je pense qu'il y a de l'espace là, pour améliorer le processus,
donc,
évoluer.
Pour l'instant, sur enquête-publique.québec, il y a 1000 signatures. La première chose qu'on demande, c'est prénom, nom, code postal. Donc, beaucoup d'informations pratiques pour le Parti québécois. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Merci.
Et c'est ce qui met fin à La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain, mardi.
Cube Radio.